La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui aux nouveautés du disque de jazz et en étant très sélectif puisque nous allons rester
français.
Il ne s'agira que d'orchestres français ayant enregistré récemment en France.
Et quand on dit nouveauté, c'est vraiment nouveau puisqu'il n'y en a pas qui sont enregistrés avant 2009.
Et comme vous savez, quelquefois, le temps de fabrication, de gestation, de mûrissement d'un disque avant publication peut entraîner qu'il soit publié en 2012 ou en 2011, ce qui est le cas de plusieurs des orchestres qu'on va entendre. Et naturellement, il n'y a pas de réédition dans ce que nous allons vous proposer. Et hop, dans le vif du sujet, nous allons en province, puisqu'il y a Paris et province, dans le jazz également, beaucoup de Parisiens musiciens sont des ex-provinciaux, même la plupart. Nous voici à Toulouse avec
les Jazzpilleurs. Alors, c'est vous dire, le nom est pas forcément si malin que ça, mais ça les a fait rire.
Voilà, bon, ils sont bien amusés à trouver ce nom un peu bizarre.
Un peu bizarre quand même.
Et les Jazzpilleurs sont un sextet. Et ce sextet, il a décidé de jouer pour la danse. Tu sais, le développement des clubs de danse a entraîné que certains musiciens ont eu l'œil en biais sur ce genre de circonstances, parce que c'est quand même mieux de danser avec un orchestre qu'avec des cassettes de country, non ?
Oui, parce qu'effectivement, quand vous êtes danseur, vous pouvez demander aux musiciens à... C'est un peu rapide pour les débutants. Vous pouvez nous la rejouer, mais un peu plus lentement. On a vraiment un choix de tempo, de technique. C'est bien meilleur comme service, entre guillemets.
Et chose très curieuse, les festivals de danse jazz, parce qu'il y en a, faisaient appel à des orchestres américains, bien souvent, disant que les orchestres français étaient incapables de fournir la prestation que... Eh bien, les choses ont changé, car grâce aux Jazzpilleurs, vous allez voir ce que c'est qu'un orchestre de danse jazz musclé...
Et avec une bonne rythmique.
Ça, c'est fondamental. N'oubliez pas que dans le rugby, tout part de devant, et que dans le jazz, tout part de la rythmique. Voici par les Jazzpilleurs de Toulouse.
Swing Time on the Rockies.
Là où, à mon avis, ils ont un peu tort, c'est qu'ils ne précisent pas sur leur... disque le nom du label et sa référence. Alors, eh bien écoutez, il vous faudra peut-être croiser l'orchestre pour trouver ce disque. En tout cas, il vaut la peine.
Thank you.
Voilà, enregistré en mars 2012 sur un arrangement de Guillaume Pic, le tromboniste de l'orchestre.
Excellent, ce trombone. Ah bon. Vraiment.
Et comme tu faisais remarquer hors micro, un bon trombone dans un orchestre, ça donne du corps.
Oui, ça donne de l'assise.
Et bien justement, en voici un dans un autre orchestre. Alors là, nous sommes aux antipodes du premier, puisque ce ne sont plus des genoux, ce sont des...
ce ne sont pas des vieillards quand même,
non,
il ne faut pas
plus
exagérer.
C'est quand même de sacrés globetrotters. Voici un orchestre planétaire. Et là, nous sommes en live, comme on dit. Nous sommes en live au festival de Montségur, les célèbres 24 heures du swing, près de Bordeaux. Et le concert a été enregistré en...
Juillet 2009.
Bon, il faut présenter en deux mots cet orchestre. Sans doute l'orchestre français le plus connu sur la planète. Il s'appelle Paris Washboard.
Washboard, vous savez tous maintenant, puisque vous écoutez la planèse du jazz avec attention, que... Le washboard, c'est cette espèce de planche à laver et le joueur de washboard a 10 petits dés, un par doigt, et il racle ou il tape sur cette planche en bois ou en métal et ça donne une batterie. Puis alors, elle n'est pas embarrassante.
Hein. Ah non, ça, c'est pas embarrassant.
Là, on n'a pas besoin d'avoir un coffre immense, n'est-ce pas ? On a juste une petite planche à laver.
Il faut quand même dire que dans le jazz, c'est plutôt la planche métallique qui a prévalu que la planche en bois.
Oui, parce qu'elle est plus sonore.
Elle est beaucoup plus sonore et c'est quand même un peu plus sec. En plus.
Donc Paris Washboard, ils ont pris ce nom-là, qui est très évocateur de la Nouvelle-Orléans. Hein.
Et depuis le début, à part le washboard qui a changé, qui est maintenant Stéphane Sévin, ce sont les trois mêmes. Un trombone, un clarinettiste et un pianiste. Et comme on parlait de trombone, il y a... un très très bon trombone, un des tout meilleurs qui soit, qui s'appelle...
Daniel Barda.
Alors son complice souffleur, c'est le célèbre...
Alain Marquet, clarinette. Et puis au piano, il y a Louis Mastier, remarquable pianiste, n'est-ce pas ?
Qu'on retrouvera un peu plus loin dans l'émission, en solo. Et tout ça, ça fait un quartet des plus goulayants, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, avec un morceau tiré du répertoire de Fats Waller, qui s'appelle...
The Minor Drag. Drag, écoutez bien, toutes les acceptions de ce mot, franchement, c'est un fourre-tout. Vous allez choisir vous-même ce que ça peut vouloir dire. Dis-nous tout.
Alors, vous trouverez, par exemple, le fait de traîner, de flâner. Vous trouverez le casse-pied, le raseur. Vous trouverez aussi le cancre à l'école. Vous trouverez le travesti. Vous trouverez le surnom de la 125e rue à New York, The Drag. Aussi, le fait d'humilier, de déranger, de troubler, ou même de bouleverser. Et tout ça, eh bien, écoutez, c'est joué en mineur par Paris Washboard et tout ce qu'on peut vous dire. Trouvez-y ce que vous voudrez. Thank you. C'était donc Paris Washboard qui, comme son nom l'indique, est formé de Parisiens et comme son nom ne l'indique pas, il y a une exception, c'est le Washboard qui est de Bordeaux, mais qui est de plus en plus parisien. Un disque Black and Blue 070-828 pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus long sur Paris Washboard. Et d'un quartet, on passe à un autre quartet. Celui-là est très différent.
Ce sont les Swingberries. Alors ceux-là, c'est l'inverse de l'orchestre précédent. Au lieu d'être principalement des Parisiens, là ce sont principalement des provinciaux avec une exception parisienne.
Cette fois-ci, c'est trompette, clarinette, guitare et piano. La formule est différente.
Et là, il y a une femme. Et elle ne chante pas, elle joue.
C'est une formidable clarinettiste, Aurélie Tropez.
Oh, qui, une petite jeunette.
Une petite jeunette qui vient du Midi de la France, avec Jérôme Etcheberry, qui lui vient du Pays Basque, comme son nom l'indique au départ. Très brillant trompette, tu sais, c'est un des tout meilleurs de sa génération. Jérôme Etcheberry, il est très très réputé. Le guitariste, on le connaît surtout au saxophone ténor, mais comme c'est un autodidacte qui a appris tous les instruments qu'il rencontrait, c'est Nicolas Montier, qui joue aussi bien de la guitare que du ténor. Là, il est plutôt rythmicien. J'ai l'impression qu'il a tâté de la guitare dans sa prime jeunesse, en même temps que tout ce qu'il découvrait. Il faut dire qu'il avait un papa qui était très sympa avec lui, Nicolas Montier, je crois. Qu'il laissait faire un peu ce qu'il voulait. Là, ça donnait de très bons résultats. C'est pas toujours le cas. Hein.
Écoutez les papas.
Et le pianiste, c'est un chevronné du clavier qui s'appelle...
Jacques Schnuck.
Et tout ça, ça fait un quartet dont on pourrait dire qu'il est auteur d'un travail totalement... ciselé, enregistré en mars 2012.
Thank you.
Swingberry, un disque du label Swingberry SB1324. Maintenant, nous allons changer de musique, puisque là, on va vraiment vers le Nouvelle-Orléans pur et dur d'un orchestre ressuscité.
Et oui, au départ, il s'appelait le Watergate 7.
Plus One.
Et maintenant, bah, ils n'ont pas été cherchés très très loin. C'est le New Watergate. Et c'est un peu une petite plaisanterie, hein, le nom de leur orchestre, parce que le Watergate, c'était le plus gros scandale politique américain.
Ah oui, ça a coûté son mandat au président Nixon, quand
qui
même.
Qui a été obligé de démissionner. Alors, ces petits plaisantins se sont appelés Watergate, vous voyez.
Et comme ils étaient sept, ils sont appelés Watergate 7. Et puis, comme ils ont accueilli un deuxième trompettiste, ils ont appelé Watergate 7 plus One. Et ça, ça leur remonte aux années 70, naturellement. Puis, ils se sont retrouvés un peu blanchis de tous les côtés, mais les voilà de nouveau aux affaires sous le nom de
New Watergate.
Naturellement. Et voici, tiré de leur dernier disque...
Un morceau très connu, n'est-ce pas ?
Très très connu, du répertoire de King Oliver. Et ce morceau, c'est le seul et unique...
Canal Street Blues.
Avec l'arme du complot, George Bilcar, à la clarinette. Le New Watergate, un disque de la série Swingland chez Jastrad. C'était le label de notre ami Olivier Brard. Et malheureusement, ce label va sans doute disparaître puisque Olivier Brard est décédé à la fin de l'année dernière. Référence SLCD 1410. À signaler qu'il y a un très bon et très prometteur jeune trompettiste dans cet orchestre qui s'appelle Benoît Marcheteau et qui est le neveu et le fils des deux banjo et tubistes, les célèbres frères Marcheteau qui sévissent dans le New Watergate aussi.
Tout ça, c'est des affaires de famille, là.
Oui, affaires de famille. Puis on a assez répété que le jazz était un village où tout le monde se connaissait.
Maintenant, voici un orchestre qui s'appelle le Authentique. Alors, c'est vous dire que les jeux de mots, apparemment, les musiciens français adorent ça. Parce qu'en réalité, ça ne s'écrit pas authentique, comme nous, nous l'écrivons, mais hot, H-O-T, et ensuite antique, A-N-T-I-C, c'est-à-dire jeu de mots un peu facile, pour dire que c'est du jazz authentique.
Et le parti de cet orchestre, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, qui est du pur Nouvelle-Orléans King Oliver, dans la tradition de ce que faisait Claude Luther avec ses Lorientais, là nous entrons dans les orchestres qui jouent la carte dite du vieux style. C'est-à-dire, ils reprennent des morceaux et des arrangements des orchestres de danse des années 20, et ils les mettent à leur sauce, mais en gardant l'esprit de la chose de l'époque. Et ils y ajoutent leur pétulance naturelle, qui est tout à fait perceptible, là, chez le trompettiste Doc Bastide, qui est le chef de Authentique, et un formidable saxophoniste ténor qui s'appelle Michel Bescon. Alors là, c'est un orchestre absolument planétaire, comme Paris Washboard. Ce sont là les deux orchestres les plus connus mondialement du jazz français. Détail piquant, ce sont tous des amateurs, et Paris Wash aussi.
Oui, et oui, ce sont les amateurs qui gardent leur cœur, toujours l'enthousiasme, l'amour du jazz. Je dis pas que les autres l'ont pas. Mais les autres, c'est des pros, il faut qu'ils fassent des concessions, il faut qu'ils aillent gagner leur vie. Tandis que l'amateur, lui, il joue que ce qu'il aime.
Et ça, c'est très important. Voici donc un ophtalmologiste, un représentant de commerce, un ingénieur géologue, un architecte, un allemand.
C'est pas un métier,
ça, mais le pianiste est allemand, je peux tout ce qu'il fait dans la vie. Et le morceau que le Authentique va nous jouer s'appelle...
Horse Feathers.
Plume de cheval. C'est le titre aussi d'un film des Marx Brothers.
Thank you.
Authentique contenait également, nous l'avons oublié dans l'inventaire, un instituteur. C'est un disque Le Cri du Chien, référence CDC 010. Et tu sais, c'est je crois leur 19e ou leur 20e album depuis le temps qu'ils existent. Et Le Authentique, c'est un monument du jazz traditionnel français. Et comme nous cultivons le contraste dans cette émission, nous allons passer du sextet au grand orchestre.
Nous n'hésitons devant aucun sacrifice.
Surtout pour vos oreilles, d'ailleurs.
Pour Radio Marjorie, que ne ferait-on pas?
Ah oui, alors. Il s'agit du Big Band de Michel Pastre. Qui est Michel Pastre? Michel Pastre est un saxophoniste ténor français qui passe pour être le meilleur de sa spécialité, encore que la concurrence soit rude dans les saxoténors. Il y a très bons saxoténors en France. Mais Michel Pastre, c'est manifestement le dessus du panier. Et il a organisé un grand orchestre autour de son propre talent. Ah oui, on a oublié de dire que le Authentique était de Nîmes. Et bien là, ceux-là sont de Toulouse ou de Paris. Et ils ont repris dans leur disque, entre autres, un morceau qui nous a tiré l'oreille. Il s'agit de
Jumping at the Woodside.
C'est un morceau du répertoire du Big Band, d'un autre Big Band, le Big Band de Count Basie, qui en avait enregistré un arrangement de tête.
Un arrangement de tête, il faut comprendre à quoi ça correspond. Basie leur disait de donner un peu la tonalité générale, et puis à vous de vous débrouiller pour faire des arrangements que vous créez sur l'instant.
Ça se passait comme ça chez Basie, c'est étonnant pour un orchestre aussi nombreux, mais c'était quand même au départ une bonne quinzaine. Les choses s'organisaient peu à peu, bien entendu tout le monde connaissait le thème, évidemment, parce qu'on part du thème quand même. Et puis à partir de là, les riffs s'organisaient et ça devenait un arrangement comme un autre, mais sans partition.
Ce qui est intéressant, c'est que pour reprendre un arrangement de tête, puisque rien n'était écrit, ceux qui ont voulu suivre comme Michel Pastre, l'orchestre de Michel Pastre, eh bien, il a fallu qu'ils écoutent tout ce qui avait été joué et ensuite qu'ils le retranscrivent d'oreille. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une oreille extraordinaire.
Il y a des gens qui sont capables de reconstituer une partition d'après un disque. Hein, et là, c'est le cas.
Or, une partition de grand orchestre, vous avez quatre trombones, vous avez quatre trompettes. C'est pas n'importe quoi comme arrangement.
Ah, c'est sûr, surtout qu'il y a des saxos, deux altos, deux ténors à baryton.
Enfin, voilà.
C'est quelque chose d'assez coton. Et là, c'est le trompettiste soliste de l'orchestre, François Biensan, qui a récupéré donc cet arrangement, l'a retranscrit et l'a adapté à la formation de Pastre, qui est un peu plus nombreuse que celle de Basie au départ. Et ça donne un morceau vraiment très très bien enlevé, parce qu'il y a une belle rythmique dans ce big band. C'est tiré d'un disque qui s'appelle To Praise and Count, c'est-à-dire c'est dédié à Count Basie, à son saxophoniste ténor Lester Young. Et ça a été enregistré, je crois, en 2009, publié nettement plus tard, mais je crois que ça remonte à 2009. En tout cas, l'orchestre existe toujours dans ce genre de répertoire, donc très très Basie. Hein, Count Basie, c'est quand même... ça marque l'orchestre de Michel Pastre.
Jumping at the Woodside.
Thank you.
disque produit par Jazz au Rempart, la structure qui organisait jadis le fameux festival de Bayonne, qui s'appelait Jazz au Rempart, avec le soutien de la ville de Bayonne, de la ville du Boucau, de la ville d'Anglette, du ministère de la Culture, de la région Aquitaine et de la maison Selmer, instrument de musique en tout genre. Je dois dire.
C'est quand même assez régional dans l'ensemble.
Ah, voilà quand même des gens qui sont soutenus. Hein. Alors, Jazz au Rempart, référence JAR 64020. Michel Pastre, Big Band. Comme nous persistons à cultiver le contraste dans cette émission, et qu'il faut bien maintenant, après cette lucarne ouverte sur un monde de brut, un peu de douceur,
nous passons à Louis Mastier.
Et à un solo de piano. Ça va vous reposer. Louis Mastier a enregistré en juin 2011
ses propres compositions,
dont nous allons extraire un hommage à Willie Smith, le lion. Voyez plutôt, lion, je vous ai eu. En anglais, Look out, lion, I've got you. Mastier enregistre pour la marque américaine Arbors. C'est un des musiciens français qui est publié en Amérique régulièrement. Et la référence de ce disque chez Arbors est LC 02732. Nous allons retourner à ce qu'on appelait tout à l'heure le vieux style, mais conçu autrement que tout à l'heure le authentique. C'est-à-dire que les cinq musiciennes qu'on va entendre y mettent beaucoup plus leurs pattes par rapport aux morceaux initiaux.
Car c'est un orchestre féminin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont choisi ce nom de Certain Lame Show, qui est fait, bien sûr, qui évoque le film où il y a Marilyn Monroe qui joue dans un orchestre féminin, un film tout à fait hilarant et génial. Et elles ont donc pris ce nom de Certain Lame Show à cause de ça.
Je me rappelle leur première apparition au Jazz Ben Ball, c'était en 1985, ça ne nous rajeunit pas, et elles non plus d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des vieilles dames pour autant. Simplement, lors de leur création, elles jouaient en salopette, un peu dans le genre Coluche, elles s'étaient d'une tenue d'une laideur extravagante. Tandis que maintenant, elles sont très élégantes et très haute couture, comme le montre la photo qui illustre ce recueil, qui est en fait un concert enregistré en 2010. À Paris.
Elles sont excellentes, ces filles-là, dans un monde d'hommes. Parce que quand même, le jazz, c'est souvent un monde d'hommes, sauf pour les chanteuses. Mais ça, je vous l'ai dit en début d'émission, rappelez-vous. Mais là, ça y est, elles s'annoncent orchestre féminin.
Et la leader du groupe, la cornettiste Kiki Despla, qui est une remarquable instrumentiste, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées et du tempérament, croyez-moi. Voici un morceau de bravoure, car c'est vraiment un acte de bravoure que de jouer un arrangement pareil sur un morceau pareil en public sans filet, je dirais. Ça s'appelle
Handful of Keys, ce qui veut dire les mains pleines de clés. Allez comprendre.
Ah, mais moi j'ai compris, en fait, parce que key, ça veut aussi dire accord. Donc c'est les mains pleines d'accords, vu qu'au départ, c'est un morceau, naturellement, du seul et unique
Fats Waller. Thank you. c'est intéressant d'entendre un solo de banjo, parce que c'est pas très courant, et ça s'explique très bien, c'est que c'est un instrument très difficile à jouer, non pas tellement techniquement, mais qui, c'est un instrument, le banjo, qui devient très vite lourd, un peu militaire.
C'est très difficile à jouer bien.
Voilà, et là, quand on entend ce solo, il est léger. Il est plein d'inventions. C'est rare, ça. C'était un disque de la propre marque, je crois.
Oui, elles ont leur propre label qui s'appelle naturellement Clac, puisque c'est la même chose, ça peut aussi se dire Clac. Et c'était le disque Clac 05. Et maintenant, un petit orchestre que peut-être vous aurez l'occasion d'entendre cet été, car il est question qu'il joue dans le Cantal et en Haute-Loire, peut-être en Lozère aussi, enfin. Vous verrez bien, il s'appelle...
Les Blue Serenaders. En gros, et en français, Blue Serenaders.
Les Blue Serenaders. C'est un petit orchestre avec trompette, saxophone soprano et une rythmique.
C'est l'orchestre qui a pris la suite, en réduction, hein, parce que c'est beaucoup moins grand, des Dumoustier Stompers.
Dont vous avez beaucoup entendu parler, et naturellement, il comporte également des gens que vous connaissez. Nous n'en dirons pas plus. Voici un morceau dédié à la fameuse... bête à cornes que Fernandel mène d'un bout à l'autre de l'Allemagne dans un film célèbre, puisqu'il s'appelle Margie, et qu'en américain ça veut dire...
Marguerite, comme la vache. C'est du jazz, tonique, léger, swingant.
Un peu marqué Kansas City.
N'est-ce pas?
Stylistiquement parlant. Et c'est un disque Jazz Odyssey Records, JOCD 014. Un autre quintet, on va passer d'un quintet à l'autre, alors tout à fait différent, qui retourne un peu aux racines.
D'ailleurs, il s'appelle New Orleans.
New Orleans Hot Shots.
Voilà. Donc, il annonce la couleur.
Ah, il n'y a pas de doute. Et cette formation qui est menée par Gabriel Conesa, qui joue également du trombone, mais qui là est au cornet, avec une très jolie sonorité et un bon phrasé. Gabriel Conesa, c'est un très bon musicien. Ils ont repris un certain nombre de morceaux de Jelly Roll Morton ou de Clarence Williams et des gens comme ça. Mais là, nous allons entendre un des rares morceaux composés par Jabbo Smith. Et ce morceau s'appelle...
Michigander Blues.
Les New Orleans Hot Shots, bien c'est un disque autoproduit qui n'a pas de référence de catalogue malheureusement. Donc il faudra, si un jour vous croisez cet orchestre, attendre cette rencontre pour vous procurer ce disque s'il vous a plu. Et nous allons terminer par un coup de tonnerre.
À tout seigneur, tout honneur, à Cantalien, l'honneur d'avoir fait un grand orchestre. Vous pensez, la regroupe, c'est pas à Paris. Mais pour ce qui est de la musique de jazz, ça le vaut.
Ah, c'est devenu un haut lieu. Car Jean-Paul Amouroux, pianiste de Boogie, émérite et très connu, c'est également l'organisateur, le directeur artistique d'un festival qui a 15 ans, un formidable festival qui se déroule au mois d'août chaque année à la regroupe, qui dure 3 jours et quelquefois 4.
Connu dans toute l'Amérique. Hein.
Ah, connu dans le monde entier même. Et complet, bourré, avant les concerts. C'est-à-dire que Si vous voulez aller à la Roquebrune, vous avez intérêt à réserver vos places. Hein, parce que là, c'est absolument incroyable. Ils ont rajouté des gradins. Enfin, c'est une salle qui fait maintenant, je ne sais pas, 12 ou 1300 places. C'est plein tous les soirs.
Ce qui veut dire que quand un Cantalien veut se jeter dans une entreprise, eh bien, il peut. Et il réussit.
Et en 2012, parce que là, nous sommes dans les nouveautés, le CD que nous avons en main, il est encore tout chaud du pressage, même que j'ai dû mettre des gros gants pour éviter de me brûler. Et il s'agit de l'orchestre que Jean-Paul Amouroux avait organisé spécialement pour ce festival, un big band, qu'il a appelé en toute originalité Boogie Big Band, mais ça, ça peu importe. C'est son grand orchestre. Et là, vraiment, on a passé une soirée absolument fantastique, qui a été très bien enregistrée, et maintenant qui est publiée dans la marque Boogieland, Boogieland BL 1943. Je soupçonne Jean-Paul Amouroux d'avoir référencé le disque de l'année de sa naissance, mais ça, j'éclaircirai ce point plus tard. Et il y a eu un événement dans cette soirée, c'est que un des meilleurs saxo-ténors français, quand on disait tout à l'heure que la France était riche en très bons saxo-ténors, semblait avoir disparu de la scène à la suite de graves ennuis de santé. Il s'appelle Claude Brault. Et ce Claude Brault a soudain ressuscité dans ce grand orchestre. Ça a été un moment très émouvant et très intense de cette soirée, et je dois dire qu'il nous est parfaitement restitué.
Vu les circonstances, ils ont fait un morceau qui est fait pour lui, sur mesure, et ça s'appelle Night Train.
C'est de Jimmy Forrest, et c'est un blues, naturellement, à la Roquebrune.
Night Train.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.